Allô, allô, ici c'est Bad, on est de retour mon pote, on va mettre un petit peu de son pour te faire deviner l'invité. On est prêt ou quoi? Écoute ça.
Je lance des rimes qui mettront en alarme la racaille du Maya Panam, l'industrie crame, qu'on fasse l'oseille, frère, halal ou haram.
Y'a deux chiffres sur la peine de car, la joue dans un film que je regarde, bah, elle gueule du désert déserti, gueule, y'a 10 guitares, y'a tous les beats, la grève, y'a celle, la proc et père, pêche, j'ai le hard et le pactole, tu sers, flex, laisse tout dans la mine remonter, là, frère de platine, disque de thé, moi, ça arrache dans pas longtemps, garde tes genoux, l'on crée des monstres, trop long, si j'ai pas ton temps, c'est parce que t'as pas ma montre, j'ai des amis pour mentir, des avocats pour me confier, ça vient du 143, c'est pas des légendes de mon vieil, viens sous.
Les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille, caille, les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille, caille, des brouillards, balèzes, l'hymne à la racaille de France, en Y, insolent, l'hymne à la racaille de France, les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille, caille, les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille, caille, des brouillards, balèzes, l'hymne à la racaille de France, en Y, insolent, l'hymne à la racaille de France.
Et puis Marseille, c'est la même que Paris. Des broliques, des rentées, des tarifs. Hein. Des olives, des barrettes, c'est la vie. T'es viré du poids si t'es pas vif. On fait tout avec nos mains. On cavale tous avec nos pieds. Souviens-toi que rien n'est certain. La mort de Kobe et Diego t'ont montré. Rien qu'on récidive dans la zone, c'est mort. Quand t'entends le buff, on a chave. Kilogramme, kilogramme, ils ont pas vu toute la quiche t'a calé dans la smart. On est des terres, tu connais le récit. La racaille de France ne fait très peu de répit. Pédo arraché, escroquerie de Yébi. C'est nous, gros tard connu. Trop brosson et l'équipe. Rachat dans l'escalier. Une descente de Condé prête ton palier. Un putain d'hermile qui fait baliser. Gros, ça pue, les keufs, ils veulent neutraliser. Ça fait pas un pont contre Bub Bub. Sur nos projets, nous sommes tous focalisés. Au disport, pas quand je sors de l'allée. Putain, joueur derby, ne faut pas paniquer.
Hymne à la racaille de France. Armani, Gucci, on dépense. La musique de la délinquance. Prochain album, moi c'est là qui fonce. Enika, la politique, le chant lexique, l'accent du Tchéka. Dominique, y'a beaucoup d'équipes, y'a l'automatique, ouais, le son des guitares. Pourquoi tu me fais les épecs? Au comico, t'as fait dans la culotte. Ça fume la bête de l'évêque. Sous ballon, elle est chaude de la minote. J'fais du rap avec habilité, la rentabilité, ouais, on l'a mérité. Chaque année, le quartier change de mentalité. On pente organisé, on finit diamanté.
Les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille, caille. Les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille, caille. Des brouillards, balèzes, l'hymne à la racaille de France. En Y, insolent, l'hymne à la racaille de France. Les jeunes de cité, les dissipés, toutes les racailles, caille, caille. Les charbonneurs, entrepreneurs, pour mes racailles, caille, caille. Des brouillards, balèzes, l'hymne à la racaille de France. En Y, insolent, l'hymne à la racaille de France.
Ici c'est pas la fin qu'on paye les icos. Les rats sont tous devenus guitaristes. C'est flingue à raison et c'est le plus gros qui cause. Je vois des talents cachés, des conduites à risque. Des tests à flasher à 200, des gros trous dans les caisses. Et des chaos frites tachés de sang sous écrou. De la rage en sachet, le vice est communautariste. On sait pas faire mentir les clichés. Alerte orange ou des kilos de zipettes, on est fichés. Certains se rangent, les autres restent dans leur monde en attendant qu'ils pètent. Les sentiers de la gloire mènent souvent à la tombe. Les légendes de quartier, les peinards de chiffres. Et comme Nip, c'est combien finiront le marathon. C'est la rafale de balles ou la perte de chiffres. On a des modèles, même au parlement. Pareil que t'as raté ta vie si t'as pas la Rolex. On rêve d'ailleurs et de moteurs allemands. La grosseur de nos chaînes et la longueur de nos laisses. C'était nous la racaille. Les petits, comment les blâmer sur MPC à taille. Sans réclamer le respect, on le prend tous cramé. Pas grande par la taille.
Vie de rue peut inspirer. La zone te donne des billets pour chiller. Vie de rue peut te briser. Vie de rue peut t'isoler. Et la zone peut te vider, t'exiler. Elle t'apprend la vie, la mort en sachet. Bien entouré pour finir seul dans le bendo. Petit prince devra braver la cité. Se faire respecter, tirer froid dans le barrio. Faut qu'il ait du vice, faut qu'il ait de l'impact. Prince de la ville devra signer un pacte. Mais toi tu veux la vie de roi, t'as fumé ton avenir. Tous tes rêves ont fini perdus dans les halls. T'es rentré dans des problèmes dont t'as pas idée. Dieu t'en sait la violence qui t'a validé. Tu veux sortir du vice mais t'as pas les clés. Le cri ne paye pas.
paye pas. Piégé dans la zone.
Tu n'as rien compris, loin de la réalité. Pas de bague au doigt, t'auras le bracelet. Mets-toi par la street, tu veux te faire valider.
Merci, 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 j'ai donné. Ta mère et ta femme, tu fais galérer. T'as voulu le mille et tu le vois filer. La mort ou l'octrice qui viendra toquer. Merci, merci, merci.
Elle t'apprend la vie, la mort en sachet. Bien entouré pour finir, seul dans le bendo. Petit prince devra braver la cité, se faire respecter, tirer froid dans le barrio. Faut qu'il ait du vice, faut qu'il ait de l'impact. Prince de la ville devra signer un pacte. Mais toi tu veux la vie de roi, t'as fumé ton avenir, tous tes rêves ont fini perdus dans les halls. T'es rentré dans des problèmes dont t'as pas aidé. Dieu t'en sait la violence qui t'a validé. Tu veux sortir du vice mais t'as pas les clés. Le crime ne paye pas, ne paye pas. Piégé dans la zone.
Merci, merci, merci. Trop de frères sont partis, partis, partis. Vie de rue, non merci, merci, merci. Trop de frères sont partis, partis, partis. Vie de rue, non merci, merci, merci. Trop de frères sont partis, partis, partis. Vie de rue, non merci, merci, merci. Trop de frères sont partis, partis, partis.
T'es rentré dans des problèmes dont t'as pas idée. Dieu t'en sait la violence qui t'a validé. Tu veux sortir du vice mais t'as pas les clés. Ne paye pas, ne paye pas. Piégé dans la zone. Piégé dans la zone. Tu te fais piéger dans la zone. Piégé dans la zone. Piégé dans la zone.
Ok, ok, ici c'est Bad, on est là une fois de plus. Bon, on s'est écouté, si vous avez remarqué, il y avait Troisième Œil. C'est pas innocent parce que l'invité du jour c'est monsieur Joe Popo de Troisième Œil. Comment tu vas?
Ça va et toi?
Ça va très bien. Et aussi accompagné de Yacine, ça va?
Ça va toujours, tranquillement. Très honoré d'être là face à une légende marseillaise.
Tu peux être une légende toi aussi si tu veux.
Ça on verra.
Ouais, donc nouvelle émission donc avec Joe Popo du Troisième Œil. Vous connaissez l'émission, donc on n'est pas venu là pour forcément parler d'actualité musicale, même si on aura une petite parenthèse. Mais voilà, l'émission c'est les bâtisseurs contre les destructeurs. On est là pour parler de social, de fait de société, voire même de politique. Et j'ai trouvé pertinent de t'inviter pour parler un peu de la rénovation marseillaise, puisque t'es un ancien de Marseille aujourd'hui.
Ouais.
T'as grandi dans un des quartiers qu'on dit les plus pauvres de Marseille et même d'Europe, j'ai entendu aussi. Donc voilà, si tu peux juste te présenter en quelques mots pour ceux qui te connaissent pas et après te démarrer sur... ton enfance ici quoi.
Pas de souci, ben moi je m'appelle Joe Popo, je suis du quartier de Félix Piat. J'ai grandi à Félix Piat de mes 4 ans quand je suis arrivé de La Réunion, parce qu'on est arrivé, je suis arrivé de La Réunion à 4 ans ici. Ouais. Et de mes 4 ans jusqu'à mes 25 ans, ben j'ai grandi à Félix Piat, j'ai fait toute ma vie là-bas. Ouais. Avec mes parents. Bon après c'était pas un choix de la part de mes parents, mais c'est plus on leur imposait. Mm-hmm. Parce qu'au départ ça devait être des quartiers de transit pour tous les gens qui venaient, qui arrivaient au départ. Ouais. Finalement on n'a pas transité, on est bien resté sur place, on a été ancré. Ouais. Et voilà quoi, aujourd'hui voilà, on essaie de toujours militer pour faire avancer. Bon, on s'est battu justement avec nos textes pour essayer de parler de nos quotidiens justement dans nos morceaux à l'époque, pour essayer de décrire un peu les zones de merde dans lesquelles on vivait, la vie de merde dans laquelle on avait vécu.
Et toi, tes parents, ils sont arrivés dans les années 80 ?
Mes parents sont arrivés, on est arrivés ici le 24 décembre 1979 exactement.
Ok.
Ouais, 80. Mon père était déjà là, un éclaireur, ça faisait 2 ans, il était déjà venu. Ouais. Après, il y a un truc qu'on appelle au groupe banque familiale, d'après ce que j'ai cru comprendre. Et après, de là, on est venu, moi et mes sœurs. On est débarqué ici, j'avais 4 ans, je comprenais rien. Je passe des petites maisons en toile à La Réunion, à des immeubles super grands. Ouais, c'était un choc quand même, c'est marquant, ça m'a marqué, moi.
Tu te souviens, toi, de ton arrivée quand t'avais 4 ans?
Oui, oui, ouais. Parce qu'en plus, il faisait tellement froid. C'était le 24 décembre, la veille de Noël. C'est pour te dire que 24 décembre 79, veille de Noël, nous, on était partis de La Réunion. Bon, après, comme tu es petit, tu suis ta maman, tu as peur, tu sais pas où tu vas, ta mère te dit, viens, on y va, ben, tu y vas. Et j'arrive, je me rappellerai toujours, on arrivait, c'était le matin. Et nous, on était partis avec des petites tenues. Mmh. C'était l'été là-bas. Et d'un coup, on arrive ici, il faisait, je sais pas combien, mais il faisait super froid. Et ça m'avait marqué déjà. Mmh. Les gens, ils étaient pâles en plus, parce que nous, là-bas, ils étaient très colorés. Et les gens que j'avais vus quand j'étais petit, ils étaient pâles. Ah. Et voilà, je me souviens encore.
C'est les gars que tu voyais dans les films, là, ils étaient en vrai, quoi.
Ouais, ouais, et en plus, ça parlait, comme nous, on parlait le créole, et ça parlait français, ça fait qu'on était un peu décalés, même au départ, à l'école, c'était un peu compliqué, parce qu'il y avait le langage à la maison, maman nous parlait créole, papa aussi, et ce qui fait que, quand tu vas à l'école, encore, j'ai eu de la chance, moi, parce que j'étais quand même petit, je suis allé à la maternelle, ça fait que j'ai pu m'adapter directement. Ouais. Mais j'avais encore, quand j'entrais à la maison, ma mère en parlait rayonnais. Ouais. Mais c'est comme plein de parents aujourd'hui, quand ils rentrent à la maison, là, malheureusement, ils parlent à leurs enfants ou en maghrébin ou en africain, mais c'est. Après, c'est là où tu apprends quand même ton langage, le langage de ton pays, de tes racines, surtout.
Ouais, c'est plus dur quand t'arrives et que t'as déjà 12 ans.
Ouais. C'est plus compliqué. Ouais. Parce que j'ai vu pour mes soeurs, elles étaient un peu plus grandes que moi. Mm-hmm. Et elles ont quand même un peu plus galéré que moi. Moi, j'étais petit, j'ai eu de la chance, je suis allé à la maternelle. Ouais. Ce qui fait qu'à maternelle, tu te réadaptes, ça fait que ça allait plus facilement pour moi.
Alors moi, ce que j'ai lu de l'historique de la construction de la cité Félix Piat, c'est que ça a été construit fin des années 50, donc première population début des années 60, et visiblement, c'était des colons de retour, donc des pieds noirs d'Algérie, de Tunisie,
c'est ça,
sur la première décennie, et qu'ensuite, c'est arrivé sur des populations maghrébines,
africaines, comoriennes, tout ça. Ouais. Ben, c'est vrai, parce que ce qu'on regardait, moi, quand je suis arrivé, quand j'étais petit, tous les commerces étaient tenus par des Italiens, ou bien par des Corses à l'époque, même les boulangeries, c'était vraiment des pieds noirs qui étaient partis d'Algérie, qui tenaient des trucs ici. Mmh. Encore moi, quand j'étais petit, je connaissais pas l'histoire du pied noir et tout, c'est en grandissant que j'ai compris. Mmh. Et c'est vrai que c'était eux qui tenaient tous les commerces, qui avaient tout, ben d'ailleurs, même les logements, c'est eux qui les louaient, ils avaient déjà, tu sais, les premières vagues d'immigrés, c'est eux qui prennent, après ils commencent à se construire, et ils arrivent, ceux qui arrivent derrière, ils suivent. Nous, on a été celle d'après, mais c'est vrai que c'était très 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 pieds noirs.
Après, moi, j'ai lu sur une source, donc je ne sais pas si la source est bonne ou pas, que justement, cette première vague donc de pieds noirs, quand ils ont quitté le quartier, au lieu de vendre, ils ont fait louer à ceux qui sont arrivés après, et que ces propriétaires-là ne payaient pas
les charges. Ils payaient pas les charges.
Et que c'est comme ça un peu que le quartier...
Parce qu'en fait, si on regarde bien, Félix Piat, au départ, c'est une résidence privée.
Ouais.
C'est le quartier privé, c'était... Mais en plus, c'est, au départ, quand je regarde bien, c'était très beau avant. Mais après, comme les gens, comme tu as dit, ne payaient plus les charges et compagnie, on s'est retrouvés... Les propriétaires. Ouais. Ben, le propriétaire, moi, chez moi, rien que moi, quand j'étais petit, j'ai encore des souvenirs. Mon propriétaire, c'est Monsieur Ephraim, il s'appelait Zeno Ephraim. C'était la communauté juive qui avait aussi des biens. Et eux, ils venaient... Justement, ça fait partie des premiers aussi qui étaient là. Lui, il y avait beaucoup de biens dans Félix Piat, mais il venait qu'encaisser de l'argent.
Ouais.
Moi, j'étais petit, je voyais ça, même des fois, ça m'énervait parce que je disais à mes parents, mais comment ça se fait qu'ils ne refait pas tel truc, mais mes parents, très, 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 très discrets, qui n'aiment pas se faire remarquer, non, mais c'est pas grave. Tu as la fenêtre, elle baille comme ça, tu as le froid qui rentre, tu as pas d'ascenseur, tu as pas d'eau chaude. Il y a des trucs que nous, c'était minimum vital pour nos parents, parce que nos parents, vraiment, eux, quand ils partaient de rien, ils arrivaient ici, ils n'avaient pas envie de faire de vagues, ils faisaient pas de vagues.
Ouais.
Même si ça allait pas, ils disaient rien, alors qu'ils avaient des droits. Ils avaient des droits. Mais les droits, à l'époque, est-ce qu'on les mettait en avant? Non. Je pense que les droits, on s'en foutait un peu, on les gardait. Ils se plaignaient pas non plus.
Mmh.
Et comme ils se plaignaient pas, ben, le propriétaire, il encaissait, jusqu'à arriver à un moment où, avant que je parte, je pense qu'il y avait l'OGRM, je crois, qu'il a commencé à reprendre, racheter quelques trucs et tout. Mais tu as encore pleines de maisons qui appartiennent à des propriétaires, des marchands de sommeil, je les appelle. Ah. Voilà, des marchands de sommeil qui sont encore là, qui profitent encore de la misère des gens. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, quand il y a eu la population comorienne qui a commencé à débarquer, parce que nous, on était la première famille comorienne, une des premières familles, parce qu'il y avait, on était trois familles comoriennes au départ. Et après, il y a eu la vague d'immigration qui arrivait, la vague qui commençait à venir des Comores. Et eux, ils cherchaient un logement. Ça veut dire qu'ils prenaient ce qu'on leur donnait, ils prenaient, ils refusaient pas. Et ce qui fait qu'il y en a bien qui ont bien profité de la misère des gens.
Et en plus, parce que si tu dis qu'ils payaient pas les charges, ils encaissaient des loyers.
Ouais.
Mais en plus, si c'était dans les années 70-80, ça veut dire que je pense qu'ils avaient même plus de crédit, là. Le logement, il était payé.
Il était payé depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais parce qu'ils n'avaient pas que un. Mon propriétaire, il avait 10 maisons, 10 appartements.
La vache.
Ah ouais, 10 appartements. Ouais. Quand il venait faire sa tournée pour récupérer des sous, il partait de chaque maison avec des 2000 francs. 2000 francs, je ne sais plus c'est combien à l'époque, genre un truc comme ça. Imagine-toi, 10 fois 2000 francs à l'époque. Et le crédit était déjà payé depuis longtemps.
Ok, putain.
Ouais, c'est des profiteurs hein, de la misère.
Mais ça n'a pas changé, même jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. Ouais. Tu auras toujours des gens qui vont profiter de la crédulité des gens qui sont dans le besoin pour leur vendre. Après, déjà, ils n'ont pas le choix, des fois. Ils se retrouvent à la rue, tu viens comme ça, parce que nous, quand j'y repense. Mais après, il y a eu quand même aussi un moment, je pense que les portes étaient fermées quand tu venais de ce quartier. Malheureusement, parce que cette adresse-là, elle commence à nous aider. Moi, pour moi, elle m'a aidé à partir du rap, mais sinon, avant ça, elle me desservait. Dès que je dis que je viens de Félix Piat, ça c'est direct. J'avais les gens qui étaient un peu choqués. Et en même temps, même quand je voulais faire un crédit, je me rappelle mes parents, ils avaient quand même, mon père, il avait les moyens, il pouvait acheter un bien. Pardon. Mais il avait un nom qui sonnait pas français, je suis désolé de le dire. Et il avait des origines étrangères. Et pourtant, on était français, hein, puisqu'on vient de La Réunion. Et après, à partir de là aussi, il avait les moyens de pouvoir faire, mais on lui donnait pas. Par contre, les gros crédits, quand il allait à CTLM et tout, dans les magasins pour faire un crédit à 13%, mon père comprenait pas, le pauvre se prenait des crédits. Il avait jamais fini de payer ses intérêts, qu'il avait pas encore payé le crédit. Mmh. Tu sais, quand tu grandis, après tu vois tout ça, tu te dis, ils se sont bien gavés quand même à l'époque.
Et la cité, je crois, c'était 3500 habitants, c'est ça?
Ouais.
Donc ça veut dire que, en équivalence, pour nos amis parisiens, c'est Aulnay, quartier les 3000, La Courneuve, quartier les 4000.
Les 4000, tout ça, c'est pareil. Et en plus, à l'époque, c'était vraiment le centre névralgique des bandits, quand même, Félix Piat, à l'époque. Mmh. Parce qu'il y avait des gros caïds, des noms de caïds qui habitaient de chez nous. Quand j'ai compris après, là, les Chinois, les trucs comme ça, j'entendais les noms. Mais bon, on était tout petits. Après, il y avait aussi une vague de Bagdad qui sont arrivés. Il y avait des très, très grands voleurs qui sont restés là-bas. Mais après, c'était une réputation. Ça s'appelait même chez nous, chez les Comores, on appelait ça Chicago. Pour te dire, où tu habites à Chicago, tu sais, vraiment, pour te dire.
Après, tu vois, c'est le parfait exemple de comment ils ont géré, comment ils ont organisé l'immigration en France après la guerre. C'est que, tu vois, années 60, c'était des pieds noirs algériens, tunisiens. Années 70, Maghreb, Afrique. Années 80, les Comores, beaucoup.
Ouais.
Et j'ai vu aussi que sur les années 90, c'était des réfugiés d'Europe de l'Est.
C'est ça, quand il y a eu la guerre des Balkans, ils sont arrivés après parce qu'on en a eu nous aussi au quartier. Ouais. Mais en fait, quand tu regardes bien, ils ont géré l'histoire, mais très très mal parce que, vu que déjà les pieds noirs arrivaient, ils se sentaient déjà rejetés parce que ce qu'ils leur ont fait en Algérie, ce qu'ils disent qu'ils leur ont fait en Algérie par rapport à ce qu'ils ont subi. Bon, bref, c'était quand même leur pays, l'Algérie. Les pauvres ont quand même le droit de dire ça à eux.
Ils ont ouvert le livre à la moitié de l'histoire.
Ouais, moitié de l'histoire. Et après, à partir de là, tu arrives ici. Et ils étaient vénères contre les Maghrébins d'ici. Après, tu as les premiers Maghrébins qui arrivent, comme tu disais, ceux qui ont débarqué à la première vague d'immigration. On était tous des colonies françaises. Mmh. C'est ça, que des enfants de colonies. Ouais. Quand tu regardes bien, parce que si on est venu ici, c'est parce que la France était bienvenue chez nous. Mmh. C'est qu'on a des papiers français, c'est qu'on peut venir s'installer ici. Et c'était, comme on dit, nous on appelait ça la métropole quand on était à La Réunion, c'était la métropole, c'est waouh, tu vois, métropole, je veux dire, tu vois vraiment en France.
Ouais, ouais, non, c'est une réalité historique, tout ça. Il y a aussi un peu d'immigration du Cap-Vert aussi, hein, dans plein de quartiers nord de Marseille. Je voulais revenir vite fait sur la question des marchands de sommeil, comme tu as dit, et tu as très bien fait d'employer le mot. Effectivement, ça existe encore. Il y a encore des affaires comme ça. Il y a eu le parc Gyptis, là, bah, proche de nous, à la Belle de Mai.
À Louban, celui de Louban.
Ouais, exact. Mmh. Où tu as un mec là qui a été jugé. Alors, quand il y a des choses qui se passent comme ça, on peut quand même le valider, qui a été jugé, qui a été condamné.
Condamné,
cette fois-ci, à la prison ferme. Parce qu'en fait, lui, ce qu'il faisait, c'était encore pire. C'est qu'il prenait les logements et il les coupait en plusieurs parties pour faire plusieurs petits studios et pour profiter de la misère des personnes, tu vois. Et effectivement, en plus, sans faire forcément les travaux, sans mettre les appartements en normes. Et ça, c'est une dinguerie. Et ça, c'est le vrai sujet aussi à Marseille, la question de logements, en fait, qui sont en mauvais état, qui sont insalubres.
Mais si je te coupe, excuse-moi, mais si tu regardes bien Marseille, tous les logements, ils sont pas aux normes, en vrai. Mais 90%, ils sont pas aux normes. Même aujourd'hui, là, malgré ce qui s'est passé à la rue d'Aubagne, il y a encore des logements qui se fissurent, il y a encore des gens.
Même dans la rue d'Aubagne.
À la rue d'Aubagne même. Même dans d'autres rues, on réhabilite des gens, on les envoie dans des hôtels et tout, parce que tout est pourri quand tu regardes bien. Ils ont laissé traîner. C'est pareil.
C'est Gaudin, ça.
Ah, il a pas
désolé,
fait.
Désolé,
non, mais c'est la vérité, la vérité.
Mort pas mort.
Mais à un moment, faut dire les réalités, elles sont là. Parce que si cette ville, elle a 40 ans de retard, c'est parce que c'est à cause de ce mec.
C'est 25 ans de Gaudin.
Voilà, après, les élus de l'époque, c'était les mecs qui restaient 50 ans à la même place.
Ah, bien sûr. Ah oui, c'est là.
Parce que même moi-même petit, c'est après que j'ai compris la politique, c'était quoi l'arnaque. Quand petit, je voyais mes parents, la communauté comorienne, ils avaient des t-shirts Gaudin pour Marseille. non mais c'est réel. T'as vu quand tu
es
en grandissant.
Et ça me rappelle nos pays d'Afrique où ça se passe comme ça aussi.
Oui, ils comprenaient pas, mais pourquoi ils leur faisaient quoi? Ils leur donnaient un local. Allez, vous pouvez jouer au domino, restez entre vous, faites vos réunions, nanani, et nos parents étaient contents, ils avaient un lieu pour se rassembler. Alors à travers ça, ils avaient des voix. Et moi, j'ai même vu un élu, je lui dis le nom aujourd'hui, Henri Djibrael, un jour il a dit, un élu de la République, il a dit, les Comoriens, tu leur donnes un carton de banane et du poulet et ils votent pour toi. Un élu. Cette phrase, elle m'a marqué jusqu'à aujourd'hui.
C'est scandaleux.
Et c'est un mec de gauche, hein. Attention.
Soi-disant de gauche.
Soit, oui, la gauche qui revient.
Tu vois, au-delà des propos.
D'ailleurs, il est en prison aujourd'hui.
Djibrael, ouais.
Une affaire autre. Mais...
au-delà des propos racistes que tu viens de citer, dans tous les cas, la politique locale, elle est très différente. Tu vois, dans les élections locales par rapport aux élections nationales,
présidentielles,
ça n'a rien à voir. Il y a des mecs, ils vont serrer la main aux gens et les gens, ça y est, ils votent pour eux.
Il y a des
gars, pour des élections, ils rentrent chez toi. Bonjour, ça va, il y a les élections. Prends un café. Et quand le gars il est dans ton salon, ben ouais, tu vas voter pour lui.
Mais en même temps, là où ils sont forts, c'est que ils prennent soi-disant les têtes de quartier. Tu as vu les mecs un peu grande gueule de chaque quartier.
Les
mêmes peuples. Encore, quand tu dis grande gueule, c'est parce que les gens ne se mêlent pas. Mais moi, j'ai vu des gens de mon quartier, hein, je le dis, on te voit. Hein, c'est tous ces gens-là aussi qui sont pourri le quartier, parce qu'il y a des gens, ils n'avaient pas les compétences, on leur donnait les moyens, ils montaient des associations, le fameux clientélisme que j'appelle marseillais. Le clientélisme marseillais, moi je l'ai vu tout pendant des années. Il y avait de l'argent qui tournait, mais qu'est-ce qu'ils faisaient les élus? Bon, telle famille, bon, vous occupez du quartier, et moi ta soeur avait un appart, ton frère avait du boulot, et ils se sont tous placés. Et aujourd'hui, je les vois tous dans des bureaux, il y a des analphabètes que je connais, moi, des gens qui sont analphabètes, ils ont même pas placé une phrase. Et ils travaillent dans des bureaux, dans des trucs sociaux. Mais tu te rends compte un peu là où on est, alors qu'il y a des gens qui ont des compétences, que c'est des vrais travailleurs, que c'est leur domaine, ou bien l'autre, il te monte une association musicale, il n'a rien à voir, et prend des subventions, péter des subventions. Comment on dit que l'argent public, pourquoi dans les quartiers ça évolue pas? C'est pas que les élus, hein. C'est pas que les élus, c'est déjà même des quartiers ils se sont bien gavés. Dans tous les quartiers, dans tous les quartiers, il y a des têtes, ils se sont bien gavés. Ils ont fait des maisons dans leur pays, ils ont fait des ci, des là.
Et moi, à l'époque, j'organise des ateliers d'écriture pour les jeunes dans une autre ville. J'ai le droit à 300 euros pour l'année. 300 euros de subvention. Alors je faisais des ateliers d'écriture, je les emmenais en studio, je les faisais bouger pour qu'ils voient c'est quoi l'enregistrement et tout ça. Et ben, la cité à côté, pour garder le calme, ils avaient des 4000, 5000 euros. Tu sais ce qu'ils faisaient toute l'année? Des barbecues ou merguez.
C'est ça.
Oh, 5000 euros de merguez, frérot.
Ils achètent la paix avec des conneries.
C'est dans toutes les villes.
Mais dans toutes les villes, depuis longtemps. Mais le pire, là où j'étais déçu pour ça, parce que la politique, ça m'a dégoûté. Parce que pour moi, la gauche, c'était du social, c'était je suis peut-être bête et naïf à l'époque, mais je me disais, putain, la gauche, normalement, ils doivent aider, ils doivent pas être au-dessus des gens. Pour moi, c'est ça, le social. Pardon, le social. Mais après, quand tu te rends compte que le fameux mec de gauche que tu as élu, il habite où, lui, au final? Il habite dans le 9e.
Ah ben oui,
il habite dans le 10e ou dans, le 7e, ouais. Près de la mer.
Sur la corniche.
Pardon. Et toi, tu es là, tu es en train de galérer ici. C'est là où je me suis dit, la gauche, c'est une... Excusez-moi du terme, mais c'est une inculerie. C'est une inculerie, c'est vrai.
Non, mais c'est les social-traîtres.
Oh,
c'est de qui tu parles. Hein. Le Parti Socialiste a fait beaucoup de mal.
Beaucoup de mal. À Marseille, à Marseille en particulier. En particulier, on est d'accord.
Parce que même au niveau local, le PS, il y a d'autres villes où c'était moins pire. Là, à Marseille, c'est chaud. Oh. Ah ouais, ouais. C'est un cas d'école même. Je pense que c'est un cas d'école.
Ouais. Parce que comment tu peux te dire, toi, tu es de gauche. Je dis pas moi, mais des mecs comme avant nous. Montrer des exemples aux jeunes pour qu'on leur donne envie de faire des choses positives. Ouais. Montrez-leur des exemples. Par exemple, je dis pas même des mecs comme IAM, des gens qui ont fait dans d'autres domaines, des mecs qui ont fait des réalisateurs, des mecs qui ont été dans comment on appelle ça, des stylistes. Montrez-leur à ces gamins à l'école, amenez-les pour leur montrer aux petits jeunes là, qui viennent du même endroit que, oh, tu sais que lui vient de ton quartier. Ah ouais, si lui il a pu faire ça, je peux faire ça moi aussi.
Ça peut être un rôle modèle.
Ça peut être un relais et un modèle. Ouais. Et à un moment, mais t'as pas tout ça. Comment tu veux que le monde s'identifie à quoi? Il s'identifie à celui qu'on le montre tous les jours en bas. Tiens, frérot, prends-toi ça. Va t'acheter ci, va t'acheter là. Non. Et aujourd'hui, moi, j'en veux beaucoup à cet État, et surtout à la politique de la ville d'ici. Ils ont tué les mômes. Ils ont tué les mômes.
Je vous propose de se faire plaisir 3 minutes et on revient.
Vas-y.
Yeah. Sending this one out to my man Killer B. No doubt indeed. Without weed, you know what I'm saying? That old real shit. There's a war going on outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to look. You shook, cause ain't no such things as halfway crooks. They never around when the beef cooks. In my part of town, it's similar to Vietnam. Now we all grown up and old and beyond the cops' control. They better have the riot gear ready, trying to back me and get rock steady. By the Mac 1 double, I touch you and leave you with not much to go home with. My skin is thick, cause I'll be up in the mix of action. If I'm not at home, puffin' live, relaxing. New York got a nigga depressed, so I wear a slug proof underneath my guest. God bless my soul before I put my foot down and begin to stroll into the drama I built. And all unfinished beef, you will soon be killed. Put us together, it's like mixing vodka and milk. I'm going out blasting, taking my enemies with me. And if not, they scar, so they will never forget me. Lord forgive me, the Hennessy got me not knowing how to act. I'm falling and I can't turn back. Or maybe it's the words from my man Killer Black that I can't say, so what's left an untold fact. Until my death, my goals to stay alive. Survival of the fit, only the strong survive.
Yo, yo, we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive.
I'm trapped in between two worlds trying to get dough. You know when the dough get low, the juice go. But never that, as long as fiends smoke crack, I'll be on the block hustling, counting my stacks. No doubt, watching my back and proceed with caution. 5-0 working, no time to get lost in. The system niggas using fake names to get out quick. My brother did it and got back with 2 ounces. I live with one with squads, hit the block hard. That's my man Twin when he got back. That fucked me up, God. But shit happens for a reason. You find out who's your true keepers when you're upstate bleeding. You can't find a shorty to troop your bed with you. Hit with a 2-4 is difficult. While on the streets, I try to maintain. Tight with my Lucas hoes like to run game. Some niggas like to trip, but I ain't with that trickin' shit. I'm like a Jew, saving those who I could bit with. Pussin' a Lex, now I'm set, ready to jet. No matter how much loot I get, I'm staying in the projects forever. Takes on the blocks, we out clever. If beef, we never separate, grow together. When worse come to worse, so my peoples come first. Try to react and get the motherfucker feeling served. My crew's all about blue, fuck looking cute. I'm strictly 10 boots, an army certified suits. Puffin' nails, lay back, enjoy the smell. In the bridge, getting down, it ain't hard to tell. You better realize
we live in this till the day that we die. Survival of the fit, only the strong survive. We live in this till the day that we die. Survival of the fit,
strong spot. Open your eyes and get wise. Look alive. 95, what up? Hypnotic thug life. Get that ass paralyzed. You know what I'm saying?
Nah, I'm jammed. Deep and all that.
Yeah, 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 on était avec les tontons.
Tu reposes en paix.
On en parlait, putain, quelle référence. Bon, donc, de retour à Marseille.
On a fait New York-Marseille, là.
On sort du Queens.
Back to life, back to reality.
C'est ça.
Ouais, donc, on parlait du troisième et plus précisément de Félix Piat. Je faisais aussi le parallèle avec des cités immenses que
sur Paris.
Et on disait toujours aussi qu'il y avait une particularité, c'est que cette cité elle est proche du centre-ville.
Ouais.
Mais ça change rien.
Non. En fait, nous on est quand on regardait Félix Piat, c'est une zone limitrophe entre le centre-ville et le début des quartiers nord. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, tu es un peu perdu, tu sais plus où tu quand tu vas pour aller en ville, encore quand il y avait des grèves de métro, tout ça, ça va, ça passait. Parce que ceux qui habitaient à la Savigne ou à Caliste, là, c'est galère. Mais en même temps, est-ce qu'on se définit comme quartier nord ou est-ce qu'on s'est défini comme proche du centre? C'est ça, parce que troisième, après les autres, c'est 15, 16, tous ces trucs-là, 14, 15, 16, mais nous, on était troisième arrondissement. En fait, on se définissait pas. des gens de Félix Piat, c'est
tout. Après, t'as des marqueurs quand même. T'as un marqueur social, pauvreté.
Ah, ça.
Ah ouais,
rien que les bâtiments, ça t'exclut.
Écoute, quand encore, là, ils ont ravalé un peu la façade, ils ont mis un peu de couleur par rapport au Méditerranée. Mais à l'époque où on vivait, nous, c'était très rose. Hell on Earth, le truc de Mobb Deep, là où tu vois les aigles et tout. C'était catastrophique, frère. Putain. Mais en même temps, il y avait beaucoup de solidarité. C'est ce que j'ai aimé, moi, dans mes jeunes années, c'est que on n'avait rien. Moi, on ne se rendait pas compte qu'on n'avait rien, en fait. Parce qu'on était tous logés à la même enseigne. Ce qui fait qu'on ne se rendait pas compte. On était contents du peu qu'on avait, on le partageait. Et c'est ces moments, aujourd'hui, je ne les retrouverai pas. Quand je regarde la génération de mes enfants, tous ces trucs-là, ça ne se retrouve plus. Ça ne se retrouve plus ce qu'on avait.
Après, t'as une autre vision avec l'âge aussi, tu vois.
Oui.
Quand t'es gosse, tu peux être dans un quartier éclaté.
Tu t'en fous. Tu vis, c'est ton quartier. Tu t'amuses.
Tu joues à cache-cache. Après, tu joues à cache-cache avec les flics.
Au début, tu te caches entre potes, ouais. Mais c'est vrai qu'après grandissant, tu te dis, waouh, comment j'ai fait pour vivre dedans?
Ouais.
Des fois, je repense avec mes gosses, je repense avec mes enfants, je leur montre. Je me dis, papa, tu habitais là? Oui, j'habitais là, j'ai grandi là. Et là où tu te dis, vraiment, on était, vraiment, on parlait pas, c'est quand tu te rends compte qu'au bout de presque 10 ans, il n'y avait pas d'ascenseur. Dans un bâtiment de 13 étages.
Ah ouais.
Nos mamans, les parents, pour nous encore, ça allait. Mais ma mère, elle faisait une course une fois, elle redescendait plus. Ouais. La pauvre, je la comprends. Descendre, on habite au 9e étage. T'imagines, descendre tous les jours au 9e étage. Mon père, le pauvre, qui allait travailler, il allait se frapper le travail 12 heures d'usine, il rentrait, frappait encore les escaliers. Ouais. Mais personne ne s'associait, personne se souciait de ça.
Tout le monde s'en foutait. C'est encore un sujet, d'ailleurs.
Ouais. C'est de te dire qu'on habite dans un. Non, mais quand je te dis 10 ans, c'est pas Marseille. Dix ans. Que, bon, moi, descends, et encore quand tu es jeune, tu es frais, force de l'âge, tu es content et tout. Mais arrivé un moment, tu te dis quand même, nos darons, les pauvres, ils te privaient de plein de choses à cause de ça.
Non, mais si tu payes tes charges, tu payes ton loyer, et c'est ça le pire.
C'est ça le pire, c'est parce que aujourd'hui encore, il y a des jeunes rebelles et tout. Des gens, ils te disent, ouais, j'ai mes droits, tu dois faire ci, tu dois faire ça au proprio. Tu arrives à aller devant les proprios. Ouais. Nos parents, ils parlaient pas.
C'est ça.
Il parlait pas, il disait pas un mot. Oui, monsieur, d'accord.
Se faire petit.
Ok, petit. Quand tu te dis ici, on n'est pas chez nous, on ne te fait pas remarquer et ne me fait jamais remarquer. Déjà, ces phrases-là, je te dis non. Après, des fois, tu disais même aux parents, des fois, je sais pas si ça vous a fait à vous, même, peut-être que vous êtes un peu plus jeune, mais moi, je disais pas à mes parents, mais vous avez des droits.
Bien sûr.
Vous avez des droits. Tu sais que tu peux demander non, je cherche pas de problème. Mais tu payes normal comme ça. Et ça te fait mal au cœur, toi, en tant que fils, de voir ça, de voir tes parents se faire plumer comme ça. Mais, c'était leur leitmotiv. Ils étaient comme ça, ils voulaient rien savoir.
Surtout qu'en plus, là, si je peux me permettre pour toi, c'est que t'es né en France.
C'est ça. Mais je parle de département français.
Tu vois, c'est pas genre, tu viens de. Enfin, entre guillemets. Pour moi, il faut respecter tout le monde. Mais je veux dire, en plus de ça, la France, elle respecte même pas les gens.
Qui viennent de leur territoire.
De leur colonie. Après, j'ai son avis, mais.
Non, c'est colonie. Appelons les chiens.
On peut le dire, vas-y.
Appelons les chiens. On est ici, on peut le dire.
Ici, on utilise les vrais mots.
Sur la rénovation de Marseille, en fait, bon, dans le centre-ville, il y a encore des gros problèmes sur le bâti. Il y a une rénovation qui est sur le côté Euromed.
Ouais.
Donc qui a pris déjà depuis 10-15 ans la Joliette, le panier qui a gardé son centre historique. Mais tout autour, ça commence à se rénover jusqu'à Capitaine Jazz. C'est en plein travaux. Mais par exemple, là, ils nous foutent le tramway sur la même ligne que le métro.
Incohérent.
Ça, c'est une dinguerie.
Incohérent.
Ça rime avec Vassal, non ?
Ça rime avec Martine Vassal, hein, clairement.
Mais. Enfin, je sais même pas en fait comment tu peux dire ouais, ces gens qui sont au pouvoir, comment ils.
Bah, parce qu'en fait, tout ça pour dire que vous avez vu les quartiers nord, vous aussi vous avez un tram. En fait, juste pour calmer les gens. Parce que tout le monde se plaint, ouais, pourquoi il n'y a pas de tram ? Allez, je vais vous l'amener jusqu'à Jazz, là, c'est bon. Mmh. Voilà.
On te met le tram là où il y a déjà le métro.
Là où il y a le métro. Il y a tous les bus qui partent de là-bas en plus.
Ouais. Bon. Et après, comment toi tu vois le. Comment tu as vécu. Parce que là, on parlait beaucoup de social et du caractère de la pauvreté et des différentes vagues d'immigration venant de différents pays au fil des décennies. Mais le côté business illicite, narco, violence.
Ben, on a franchi un pas, on a franchi un très très grand cap que je pense qu'aucun de nous n'aurait jamais imaginé, parce que ça existait de mon temps, quand j'étais plus jeune, il y avait toujours de trafic. Déjà, ce qui était bien à l'époque, je me rappelle encore, c'est qu'ils avaient fait péter les grands qui vendaient la résine, ils avaient fait partir les gens qui vendaient de l'héroïne, parce que ça vendait beaucoup d'héroïne dans les années 80. D'ailleurs, ça a détruit beaucoup de gens, de familles et compagnie. J'ai vu des gens se détruire avec l'héroïne, parce que quand tu, comme je te disais à Félix Piat, tu habites dans un bâtiment où le mec il vient, il se cale devant toi, tu as 8-9 ans, tu vois un mec tu le vois tout faire, hein, mec, et tu dois esquiver, tracé dans le couloir pour aller à l'école parce qu'il est allongé comme ça dans les cages d'escalier, t'attrapes le pied, des scènes d'horreur. Mais ils ont justement réussi à chasser les vendeurs d'héroïne pour qu'il n'y ait que la résine. Après, il y avait d'autres vols, la ruse, ouais. Nanani, nanana. Mais déjà, dans tout ce qui était fumette, il n'y avait que le shit. Et après, aujourd'hui, c'est comme si on faisait un retour en arrière. Dans tous les quartiers aujourd'hui, maintenant, ils vendent la coke, des trucs comme ça, des trucs que tous les grands s'étaient battus pour paquer ça. Ouais. Ah ben, c'est revenu aujourd'hui parce que les jeunes sont tellement rien qu'ils sont prêts à tout. Ouais. Parce que pour arriver à faire des choses comme ça, et en même temps, si toute époque, chaque époque a ses codes, mais nous, les grands, ils vendaient quand il y avait une maman, tout le monde tournait le dos.
Ouais,
tu pouvais faire 2 mètres, tu faisais 180 kilos, tu es un vaillant, tu voyais une maman passer, même si c'était pas la tienne, tu tournais la tête.
Ouais. Il y avait un peu de pudeur.
Il y avait de la pudeur.
Je comprends qu'il y a de la responsabilité personnelle, mais comme tu dis, quand ils ont voulu chasser les vendeurs d'héroïne, ils ont réussi à le faire. Donc il y a quand même une responsabilité des pouvoirs publics.
Ouais.
Bien sûr.
Ah non, qui a chassé les vendeurs d'héroïne, c'est les mecs du quartier.
Ah, c'est les mecs du quartier.
Ah non.
Tu vois, c'est ce que je disais l'autre fois. Il y a une époque où, moi, je me souviens. T'allais dans un quartier chercher du shit, y a pas de souci. Par contre, tu commençais à parler de CC.
Ou bizarre. Ouais.
Tu te faisais jeter.
Ouais.
Effectivement, et aujourd'hui, c'est plus le cas.
C'est ce que je te dis. Aujourd'hui, on est revenu, on a fait carrément marche arrière, où c'est les mecs de quartier même qui font revenir tous ces trucs-là. Ah. Et tu te dis, putain, merde, parce que les pouvoirs publics, tellement ils les ont laissés, les meneurs vont chercher quoi ? On leur propose rien. Même plus d'activité. Moi, j'étais petit, j'allais, malgré qu'on peut dire, on n'a pas eu grand-chose, mais il y avait des activités au centre social. On faisait des sorties. On avait, par exemple, on devait refaire un truc. On gagnait un petit peu d'argent pour avoir un peu d'économie, pour pouvoir partir en camp. Vous voyez, tous ces trucs de bits, ça avait pas grand chose. Ouais. Mais quand même.
Ça a de la valeur.
Ça a de la valeur. Quand tu es petit, tu commences à apprendre comment gérer ton argent, partir avec des copains en colonie parce que tu as travaillé, là, c'est l'argent de ta sueur que tu as gagné. Tu vois, il y avait ces petits trucs-là, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Du moment qu'ils commencent à enlever qu'ils ont enlevé la police de proximité, tous ces trucs-là, ça a détruit le quartier. On peut dire ce qu'on veut, mais ça a quand même détruit le quartier. Les mecs, c'est vrai, les Condé, ils parlaient, oh frérot, ils connaissaient les noms et tout. Et une fois que Sarkozy, il a enlevé ça, il a tout niqué.
Ouais, les centres sociaux aussi qui ferment.
ils ont plus de sub, on leur donne rien.
Et là, ça continue. Là, j'ai vu dans le 15e, il y a des centres qui ferment.
Ouais.
Mais il y en a qui ferment à cause de la violence.
Ouais, malheureusement.
Bah, t'imagines que t'es dans une ville où les pouvoirs publics, ils n'arrivent même pas à réguler la violence au point qu'ils ferment des centres.
Le dernier lieu où les jeunes ils pouvaient encore se réunir, se poser tranquille.
Ouais, mais après, ça rejoint une chose dont on avait déjà évoqué ici dans l'émission, c'est que c'est moi je pense pas que c'est, ils y arrivent pas, c'est qu'ils veulent pas.
Ouais, il y a aucun,
ils veulent pas que ça s'arrête, volonté, ouais. Parce qu'en fait ça leur permet de pouvoir surfer sur les questions d'insécurité, sur les questions de violence, donc ça bougera pas. Mais moi je pense vraiment aussi que là, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question du trafic aussi des jeunes, c'est que ouais, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, malheureusement, en fait c'est la seule,
ça c'est le répertoire qu'ils ont,
c'est la seule possibilité qu'ils ont.
J'en connais, j'en parle, mais je dis, mais frérot, moi j'aimerais, moi qu'on me propose un truc, mais c'est pas vraiment, ils aimeraient, mais il y a pas. Il n'y a pas.
Et en vrai, dès l'école, dès les établissements scolaires, il y a déjà des inégalités. Donc forcément,
ça n'a pas évolué. C'est ça qui est malheureux, c'est de se dire qu'ils auraient pu quand même se dire on a déjà vu l'exemple avec ceux qui sont passés avant, faisons autrement. Maintenant, ils n'ont pas fait autrement, ils ont continué. Ça veut dire que c'est voulu quelque part. C'est voulu, comme tu dis, maintiens cette violence-là pour que tu puisses, toi, justifier de ce que tu vas faire comme truc derrière.
Ah, bien sûr, parce que les politiques sécuritaires, etc. Parce exactement. Que le trafic de drogue, s'ils voudraient l'arrêter, ils l'arrêteraient en
bien sûr.
Deux secondes. Hein, comment ça se fait là, on en parle aujourd'hui, là, on est en avril. Comment ça se fait qu'il y a eu une affaire, la Lofast, actuellement? Il y a trois policiers qui sont en garde à vue pour possiblement affaire de corruption sur une arrivée de cocaïne en Colombie, à Marseille. Ouais. Donc en vrai de vrai, si mettaient vraiment l'envie et les possibilités, ils pourraient empêcher ça. Mais il se trouve que c'est pas le cas et que même on en arrive à des situations où il y a possiblement des policiers qui sont accusés de complicité dans le trafic de drogue. Donc là vraiment c'est.
Mais ça date pas d'hier.
Ah oui, non, c'est clair, c'est pas la première fois.
Chez nous déjà.
C'est juste que là ça a été médiatisé.
Quand j'étais petit, il y avait nous on n'était pas. Dieu merci, on se préservait de ce truc-là d'aller faire des conneries et tout. Mais moi, je voyais un Condé. Il y a des noms jusqu'à aujourd'hui. Des noms qui, c'était des ripoux, déjà à l'époque. Ça veut dire qu'en fait, c'est des successions dans toutes les générations de flics. Il y a toujours des ripoux. À Marseille, encore pire. Il y avait un qui s'appelait Monsieur Tachon. Il était très, très connu. D'ailleurs, des fois, il y a des interviews, tu le vois arriver, il parle et tout, il fait. C'est les mecs qui se sont gavés.
Bon, il nous reste une minute, parce qu'il y a une émission derrière nous. Allez. Une petite actu musicale à nous proposer ou...
Ouais, ben là, en fait, les 30 ans du groupe, le 30 mai à l'Espace Julien. Ouais. Pour ceux qui veulent venir, ça va être une grande fête avec plein d'invités. Et voilà, on va se préparer ça pour se faire plaisir, pour fêter ses 30 ans de carrière.
Et niveau studio, il y a un projet
Il y a peut-être un projet qui est en train de se mettre en place et aussi surtout un festival qu'on est en train de monter aussi derrière nous. Ouais. Okay. Mais il y a un projet qui va arriver derrière, mais je reviendrai pour en parler.
Bon, merci à vous deux. En tout cas,
merci, ça a passé tellement vite. C'est un truc de fou. Oui, mais même, c'est parce que quand tu as des bonnes discussions comme ça passe super vite. Super.
Tu sais, quand ta femme elle t'attend à la maison, est-ce que tu as passé 2 heures au café du commerce, c'est pareil ici.
Bon, on aura l'occasion de se revoir alors.
Pas de soucis, les frérots.
Il y a les photos, tu discutes et tu vois pas le temps passer.
C'est ça.
Bon, bref, merci à tous. Petite pensée au poteau Boss One.
Ouais, qui vit des petits moments difficiles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est pas parmi nous. Un petit big up à lui, une pensée pour lui et sa famille.
Et voilà, bon, sur les réseaux, suivez l'émission BAD, l'association People Unit. Et puis moi-même Kidam, je vais balancer du son un peu plus souvent là maintenant. J'ai tellement de trucs dans les tiroirs, je vais essayer d'en balancer un par mois à peu près. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il n'y a pas de vidéo, on s'en fout, on balance le son. Bon, bref, le peuple, à plus tard. Ciao, ciao.
Ciao, bonne soirée tout le monde.
Ciao.